Avant de trouver ma place dans l'engagement avec mes différents projets, une question m'obstinait. Comment faire de mon métier un vecteur de transition sociétale? Comment avoir un impact et faire ma part au quotidien? Si vous écoutez Nouvel Oeil, vous vous posez certainement aussi ces questions-là. Et si j'ai choisi la Green Management School pour soutenir mon podcast, c'est parce que ça peut réellement vous aider à vous y retrouver. Se former au métier de la transition écologique, ce n'était pas si accessible il y a quelques années, mais ça l'est aujourd'hui. Ça l'est tellement que l'on ne sait plus qui croire, quelle formation entreprendre, ni ce que ça vaut. Alors j'ai fait les recherches pour vous, et j'ai trouvé l'école que j'aurais tant aimé faire il y a quelques années, quand j'étais paumée. Des cours approfondis sur le climat, la biodiversité, l'agronomie, la géopolitique, mais aussi sur les modèles économiques vertueux. Le tout dispensé par des spécialistes et des personnalités inspirantes. Créer un autre lendemain que celui qui s'annonce, c'est leur mantra. Et derrière cette idée, la mission de Green Management School est de former de nouveaux managers capables de transformer les entreprises et les organisations de l'intérieur. Toutes les informations sont en description. Merci à Green Management School de croire en Nouvel Oeil en soutenant cette saison de podcast. Tout de suite, place à un nouvel épisode. Hello, je suis Victoria et je te souhaite la bienvenue sur Nouvel Oeil. Chaque semaine, je tends mon micro jaune à une personne qui m'inspire pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies. À travers le parcours audacieux de mes invités, je questionne la confiance en soi, l'écologie, le sens d'une vie, l'amour, la liberté, bref. Autant de sujets qui traduisent un monde qui bouge et qui rythme nos vies. Alors je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle. Pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser.
On développe ce réflexe, j'ai une angoisse, je vais avaler un médicament ou je vais aller boire un verre d'alcool ou je vais prendre un risque ou... Et peut-être que j'ai à faire ce travail d'en réalité m'arrêter et regarder en quoi ça m'informe sur ce que je suis en train de vivre.
Certaines rencontres ont ce magique pouvoir d'infléchir une trajectoire. Elles remettent toute une vie en perspective, transforment un destin, ouvrent à de nouvelles libertés encore inconnues. Pour Fanny Guéral, c'est une rencontre avec un psychanalyste qui, très jeune, a inhibé son introversion. C'était le début d'un déploiement. De ces déploiements dont on ne revient pas insensible ni intact. De ces déploiements encore qui nous révèlent et nous aident à embrasser les rêves. Alors Fanny a embrassé les siens de rêves. Elle pratique aujourd'hui la gestalt-thérapie et la partage avec ses patients et aussi dans ses livres. Écrire, c'était en elle depuis toujours. Et c'est maintenant son quotidien. Avec Fanny dans cet épisode, on parle d'écoute active, de thérapie et d'écriture. J'espère que cette écoute aura le goût d'une thérapie.
D'accord, ouais.
Bonjour Fanny Guéral.
Bonjour Victoria.
Je suis ravie de te recevoir au micro jaune. Tu m'as contactée il y a quelques semaines, même mois, par mail pour me présenter ton travail et j'ai de suite accroché avec ta personnalité et ce que tu défends au quotidien. Donc tu es gestalt thérapeute, c'est un courant de psychothérapie que je ne connaissais pas du tout. Tu es également l'auteur de 6 romans, dont le dernier Psy, Jeune et Randonnée, qui est paru aux éditions Erol, édition dans laquelle on se trouve là pour enregistrer ce podcast. Fanny, je vais te poser la question que je pose à tous mes invités en introduction. Qu'est-ce que la vie t'a appris jusqu'à aujourd'hui?
Alors elle m'a appris beaucoup, beaucoup de choses. Peut-être que je pourrais retenir que tout est affaire de liens et que tout est affaire de rencontres. Et je remarque qu'au fil de ma vie, il y a beaucoup de rencontres justement qui ont infléchi ma trajectoire et qui ont abouti à ce que je suis aujourd'hui. Donc vraiment, c'est cette notion d'inconnu, d'imprévisible auquel on s'adapte, on s'ajuste. Et puis le fait qu'on fait des rencontres, on crée des liens et ça nous modèle, ça nous façonne. Ça, c'est quelque chose que je retiens beaucoup.
Tu as toujours été à l'aise avec cette incertitude ?
Je sais pas si j'ai toujours été à l'aise avec cette incertitude. Probablement que quand j'étais jeune, j'étais moins à l'aise qu'aujourd'hui avec l'incertitude. Et je pense que c'est quelque chose, c'est un apprentissage, quoi. C'est quelque chose qui se fait progressivement. Même si ça peut paraître évident, ça peut paraître simple. Et en réalité, ça l'est pas du tout. Parce que souvent, on a envie que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. on vit une situation, on aimerait que ce soit différent. Et puis, pour autant, apprendre à la regarder telle qu'elle est, apprendre à se dire qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, c'est extrêmement important pour pouvoir créer du mouvement, créer des nouveautés dans sa vie.
Qu'est-ce qui t'a aidé à l'apprivoiser, cette incertitude, et à nager dans ce mouvement-là ?
Alors, je suis beaucoup allée forcément du côté de la psychothérapie, puisque c'est ce qui m'a amenée aujourd'hui à devenir thérapeute, du côté du soin, de la médecine, du développement personnel. Donc ça, ce sont des choses qui feront vraiment beaucoup figure dans mon parcours. Très tôt, j'ai été intéressée par les relations humaines, par voilà tout ce que je viens de te décrire. Et au fil de la vie, au fil des années, j'ai découvert de nouveaux champs. Et donc voilà, je suis beaucoup allée de ce côté-là.
Dès l'adolescence, déjà, tu as été attirée justement par la psychanalyse. Quelle petite fille tu étais pour dès si jeune à avoir cet attrait-là ?
Je pense que déjà, petite fille, il y avait un certain nombre de choses que j'éprouvais, que je vivais, qui sont encore présentes aujourd'hui, des traits que je reconnais de moi.
Lesquels ?
La sensibilité, de l'introversion, je dirais, et qui a changé, qui s'est transformé avec le temps. Et puis l'attirance pour le vivant. Ça, depuis toute petite, j'ai toujours été attirée par la biologie, les animaux, la nature. J'ai toujours eu un grand élan de ce côté-là. J'ai voulu être biologiste pendant un temps. Et puis les relations humaines aussi. Je crois que le leitmotiv, finalement, c'était comprendre. Comprendre le vivant, comprendre le monde, comprendre les relations. J'ai toujours eu cette curiosité-là. Je vois que c'était présent déjà chez la petite fille que j'étais. Et puis, il y a eu aussi rapidement un instinct, j'ai l'impression, de protection envers certains de mes proches. Et ça rejoint le soin. C'est-à-dire que rapidement, je me suis sentie comme appelée ou comme à ma place dans quelque chose qui est une relation de soignant. Enfant, je pense que déjà, tout ça, ça me marquait. Et la vie a fait que j'ai fait une psychanalyse très jeune, à 17 ans.
Ah oui.
Vraiment, ça a marqué mon entrée dans la vie adulte. C'était une psychothérapie analytique avec un psychanalyste pur et dur. Hein. C'était du face-à-face, j'étais pas sur un divan parce que j'étais encore un peu jeune pour ça. Mais sinon, le principe était le même.
Et en quoi est-ce que ça a marqué une transition dans ta vie ? Qu'est-ce que ça t'a révélé ?
Je te disais au début que je crois que certaines rencontres infléchissent nos trajectoires. Et je crois que celle-là, ça a été un gros infléchissement. Ça a vraiment permis de remettre des choses en perspective pour moi. J'ai commencé à me transformer. Je te parlais d'introversion. Voilà. Ça a commencé à bouger. J'ai senti plus de liberté peut-être aussi. C'était le début d'un déploiement. J'ai l'impression que j'ai été très lente à me déployer. Et que ça c'était le début d'une possibilité de déploiement. Et donc voilà, c'est le début de cet infléchissement de trajectoire-là.
Et dans cette envie de prendre soin, tu as fait des études de médecine et tu voulais devenir psychiatre avant de finalement pratiquer 10 années en tant que médecin généraliste. Du coup, à 20 ans, comment est-ce que tu te projetais dans ta vie future ?
Je me voyais psychiatre, psychanalyste à 20 ans. J'étais vraiment... Voilà, ça a été une découverte... frappante pour moi. En philosophie, en terminale, on avait parlé de psychanalyse un peu. Et puis cette thérapie que j'ai faite pour moi m'a conduite à des lectures, et notamment Françoise Dolto, ça a été vraiment quelque chose de très marquant pour moi. Alors, il y a des controverses aujourd'hui sur certains de ses propos. Moi, je suis pas avec ça, parce qu'en plus, je suis même pas psychanalyste.
Qu'est-ce qu'elle défend comme propos ?
En fait, ce qui a été controversé, c'est des phrases tirées hors de leur contexte sur parfois des choses qu'elle a dites et qui étaient désajustées. Mais globalement, c'est quand même la personne qui a fondé la psychanalyse d'enfants en France, et il y a eu un avant, un après elle. Et c'est vrai que moi, dans ses livres, j'avais 16 ans la première fois que je suis tombée sur un bouquin de Françoise Dolto. Il y avait des retranscriptions de ses interviews radiophoniques. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, tiens, c'est... Quelle façon elle a de parler aux enfants, aux adolescents, de s'adresser à eux comme des personnes. J'ai eu l'impression de découvrir un mode de communication que j'avais jamais vu avant. Et je me suis dit, tiens, on peut parler comme ça. Aux enfants, aux jeunes, ça a beaucoup élargi ma conscience. Et tu vois, aujourd'hui, je me dis même que peut-être que c'était les prémices de ce que j'ai pu trouver après dans la communication non violente, la CNV. Quelque chose d'une écoute qui a du recul, qui a de l'ouverture. Ça, voilà, ça m'a beaucoup marqué, Françoise Dedeau.
Et la psychanalyse, en quelques mots, est-ce que tu peux nous la décrire telle que toi tu la perçois? Parce que c'est un mot qui peut faire peur ou qui peut braquer peut-être certaines personnes. Qu'est-ce que c'est, selon toi?
Alors moi, je suis pas spécialiste en psychanalyse, hein, même si ça m'a beaucoup intéressée au début, mais j'ai bifurqué parce que en France, le paysage de la psychothérapie, en gros, on peut le scinder en trois domaines. Mm-hmm. D'un côté, sur un pôle, on a tout ce qui est d'inspiration psychanalytique, psychanalyse, thérapie psychanalytique. Donc c'est la théorie freudienne,
oui.
Hein, avec le divan, l'inconscient, ça se base là-dessus. À l'autre pôle, de l'autre côté, on a toutes les thérapies basées sur les neurosciences qui vont être vraiment centrées sur l'avenir et pas s'intéresser au passé du patient. Par exemple, les thérapies cognitives ou comportementales qu'on utilise beaucoup pour les phobies. Donc ça, avec des directives, des expositions à ce qui fait peur, voilà, ça va être très directif. Et puis entre les deux, on a tout un champ, le champ des thérapies dites humanistes et relationnelles, dans lequel s'inscrit la gestalt thérapie que je pratique aujourd'hui. Donc tu vois, la psychanalyse, on est sur un pôle, c'est une façon de pratiquer la psychothérapie. Je sais pas si ce qui fait peur, c'est le mot psychanalyse en soi, parce qu'il y a tout, il y a les siècles mais passés, mais l'idée, c'est que Freud, c'est la première personne qui a inventé la cure par la parole. Avant lui, à part la confession à l'église, hein, il n'y avait pas grand-chose. Et c'est lui qui, le premier, a commencé à mettre ça sur la table, à élaborer une théorie, à montrer que le fait de parler, ça peut faire changer les choses. Donc c'est quand même un héritage avec lequel il faut compter, quoi, qu'il faut prendre en compte.
Tu as toujours écrit et tu n'as terminé la rédaction de ton premier roman qu'à 33 ans. Donc finalement assez tard, enfin à l'échelle d'une vie ça reste tôt, mais rien à voir avec la médecine finalement, c'est vraiment un milieu tout à fait nouveau. Donc à 33 ans, tu publies La génération spontanée des grumeaux en auto-édition. Pourquoi tu as finalement attendu autant d'années pour écrire alors que tu as toujours eu ça en toi?
Je crois qu'il y a plusieurs facteurs. Au départ, c'était ma façon d'appréhender l'écriture. Je crois que enfant, adolescente, l'écriture, je vivais ça plutôt comme expérimenter une poésie du langage. Et il y avait un grand lien avec la musique pour moi, parce que j'ai toujours été fait beaucoup de musique, j'ai fait beaucoup de piano et puis d'autres instruments aussi. Et donc, il y avait un gros lien pour moi entre le langage, la poésie, l'écriture, la musique. Et j'étais plutôt dans cette optique-là. J'avais l'idée d'écrire un roman, mais c'était plutôt l'idée d'écrire, comme tu vois, une longue poésie en vers libre presque. Pas tellement l'idée de raconter une histoire. Et donc, du coup, je tâtonnais beaucoup, je me reprenais beaucoup, j'écrivais des débuts de romans, j'écrivais des tas de choses, des impressions personnelles, de la poésie. Ensuite, j'ai fait médecine et ça, c'est très prenant. Ça m'a pas beaucoup laissé l'occasion d'écrire. Même si j'écrivais quand même de temps en temps, j'étais très lente, je me reprenais beaucoup sur chaque phrase, je réfléchissais beaucoup sur chaque paragraphe.
Et parce que déjà, tu écrivais dans l'optique d'être publié. C'est pour ça que tu y prêtais autant d'attention?
Bah oui, non, je sais pas si c'est que j'y prêtais autant d'attention parce que j'écrivais dans l'optique d'être publié. C'était plutôt par perfectionnisme et par souci de trouver la phrase juste. Mmh. Mais je me suis rendu compte finalement qu'en laissant couler, on arrivait au même résultat, beaucoup plus rapidement, et puis qu'on pouvait toujours revenir, corriger, réajuster.
Donc se poser trop de questions, ça freine parfois?
C'est certain, le perfectionnisme, ça freine, ouais. Et puis, vers la trentaine, ça correspond à... Enfin, j'ai commencé à avoir des enfants, ma première fille est née, j'avais 29 ans, et ça a été une période d'intense réflexion, l'arrivée des enfants. Et j'ai lu à cette occasion pas mal de livres d'une psychologue qui s'appelle Isabelle Filioza, qui écrit sur les émotions, sur l'éducation. Et l'un de ses livres s'appelle « Trouve ton propre chemin ». Et elle dit « si quelque chose vous intéresse dans la vie, si quelque chose est important pour vous, il faut absolument y consacrer du temps, il faut le mettre au centre ». Et ça a été un déclic pour moi. Je me suis dit « mais en fait, depuis que t'es toute petite, tu te dis intérieurement « j'écris, j'ai envie d'écrire, je vais écrire un livre ».
Et
fait,
tu ne te fais pas la place.
Voilà. Et ça a été un choc et je m'y suis mis et en 6 mois, j'ai terminé d'écrire ce roman qui était sur le feu depuis des années.
Et donc, comment tu as fait la place dans tes journées entre les enfants, le travail et l'écriture? Tu te levais plus tôt? Tu te couchais plus tard?
Je me levais pas plus tôt parce que je suis pas du matin. je remplaçais certaines occupations par de l'écriture, plutôt dans la soirée, dans les interstices de la vie, j'aime bien dire ça. Dans les transports en commun, finalement, quand quelque chose est important, on trouve toujours la place pour le faire. Hein. On trouve la place pour scroller sur les réseaux sociaux, c'est alors ça. On peut remplacer ça.
C'est une question
ça.
De priorisation. Mais souvent, on procrastine aussi dans ces projets qui sont un petit peu vertigineux. Donc, dans les transports en commun, il t'arrivait d'écrire sur le téléphone.
Sur le téléphone, ouais. Et puis le soir, à la maison, le week-end, sur les plages de temps que je trouvais, que j'arrivais à rendre disponible.
Et ce qui est assez beau, c'est que donc tu as terminé ce premier livre que tu as publié en auto-édition et tu as après été remarqué par une première maison d'édition qui t'a fait confiance et qui t'a permis de te publier. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là ?
C'était incroyable et c'était avec mon deuxième roman, hein, pas avec le premier.
Le début des haricots,
voilà,
c'est ça, c'est en 2016.
Ça. Et je crois qu'il y a une question de persévérance. Hein. Je sais que toi, c'est un sujet qui te tient à cœur.
Oui.
Et je crois que vraiment, moi aussi, c'est un thème, quelque chose qui est vraiment central. Parce que le premier roman, quand on écrit, on a souvent l'imaginaire que le premier roman sera parfait, ce sera un best-seller, voilà. Et ce sera terminé presque à partir de là. Et en réalité, finalement, le premier roman, c'est une marche, c'est
une
façon de se découvrir en tant qu'écrivain. Mais ça, je le savais pas. Au départ, et j'ai participé à un concours avec ce roman-là, et ça m'a donné l'occasion de rencontrer des éditeurs parce que j'ai obtenu la deuxième place, mais j'ai pas été publiée, et j'ai écrit un deuxième roman, et c'est vrai que là, le succès en auto-édition a été très subi.
Plus de 20 000 lecteurs, je crois. Donc pour le début des haricots, et c'est Albin Michel qui t'a contacté.
Oui, plusieurs éditeurs m'ont contacté, donc j'ai pu choisir, ce qui est un luxe.
Quelle chance.
Inouï, oui. Et donc, ouais, c'était un peu le tourbillon magique, hein, ce moment-là. J'avais du mal à y croire. Et en même temps, c'était...
Qu'est-ce que tu ressentais ? Syndrome de l'imposteur ? Fierté ? Peur ?
Syndrome
peut-être.
De l'imposteur, pas tellement. Même si j'ai pas suivi de cursus littéraire. Moi, j'étais médecin. Alors, je pouvais me sentir parfois un petit peu décalée, peut-être, dans ce milieu-là. Mais plutôt de la joie pure. Quelque chose de très heureux, parce que ça faisait résonner mes désirs d'enfant. J'avais toujours voulu être écrivain, publier un roman, et voilà, ça se produisait.
Et donc des livres, tu en as écrit plusieurs et tu en écris encore. Revivre sans cesse la même journée, ça a quelque chose de sécurisant. Et dans ton livre, Le millième jour de la marmotte, Éléonore, donc l'héroïne, va s'ouvrir à l'imprévu et au pas de côté. Ces fameux pas qui font tellement peur. Comment on fait quand on veut sortir de notre zone de confort ?
J'ai l'impression qu'il faut s'appuyer sur plusieurs choses. À la fois s'appuyer sur des choses, des ressentis intérieurs, ce qu'on éprouve, la corporalité, ça en gestalt-thérapie, c'est extrêmement important. Ce qu'on connaît de soi, ce qu'on a du coup sédimenté des expériences précédentes. Et puis savoir aussi trouver des ressources, du soutien au dehors, dans l'environnement. Et du coup, tu vois, tu parles de sortir de sa zone de confort. Moi, en tant que thérapeute, je vais traduire ça en ajustement créateur, on dirait ça en gestalt thérapie.
Okay.
On a l'idée que parfois dans la vie, on a tendance à être dans des ajustements conservateurs, des boucles figées de comportements, de choses qu'on connaît, de schémas répétitifs qui parfois nous enferment.
Mais qui nous rassurent.
Voilà, qui ne sont pas toujours satisfaisants. Et il faut trouver les moyens de pouvoir faire le pas supplémentaire alors qu'on ne sait pas si le sol sera là sous nos pieds. Mais comment faire en sorte d'être rassuré ? Donc, il y a vraiment cette idée d'aller pouvoir chercher du soutien. On peut pratiquer un peu l'auto-soutien, mais aussi et surtout aller voir dans l'environnement qu'est-ce qui peut faire ressource pour nous pour pouvoir sortir de cette zone de confort. Alors, c'est vaste, hein. Ça peut paraître un peu abstrait, mais je crois qu'on a chacun nos réponses à trouver et des questionnements à avoir sur... Bah, on a tous des angoisses existentielles, ça c'est universel. Hein. Tu vois, ça c'est une base de la gestalt-thérapie, c'est l'existentialisme de Sartre. Donc on est tous jetés dans le monde avec des angoisses existentielles qu'on ne peut pas résoudre. Mais on va tous bricoler, trouver des choses pour pouvoir vivre avec ça, que ce soit vivable, que ce soit supportable, que ce soit même agréable. Et je crois qu'on a à trouver notre réponse singulière à voilà, cette question-là. Comment je sors de ma zone de confort ? Comment j'arrive à faire les pas pour trouver de la nouveauté, pour aller vers cet ajustement créateur qui est à la fois anxiogène et en même temps qui apporte un plaisir incroyable.
Et donc à t'écouter, je comprends que pour sortir de sa zone de confort, il faut cultiver l'autocompassion, et à apprendre à être en sécurité avec soi, qui n'est pas la même chose qu'être en sécurité dans son environnement, peut-être matériel. Comment on apprend à cultiver cette sécurité personnelle en soi ?
Je crois que c'est déjà la première étape, c'est de faire ce constat-là, de voir que je crois que le changement sociétal, le changement général, il passe par l'action personnelle, le changement individuel. Moi, j'aime bien cette citation de Marc Aurèle. Alors, j'en parle dans le millième jour de la marmotte. C'est pas exact, mais c'est quelque chose comme donne-moi la force de supporter ce qui ne peut pas être changé, le courage de changer ce qui peut l'être et la sagesse de distinguer l'un de l'autre.
Oui.
Et j'ai l'impression que, du coup, on a ce travail à faire de pouvoir lâcher prise et peut-être même se protéger des choses qu'on ne peut pas changer, des choses qui sont éloignées de nous, et se dire que on a à faire ce travail de s'occuper de nous, d'avoir cette autocompassion. Et c'est ça qui va ensuite se diffuser vers l'extérieur et permettre qu'on ait une action vers les autres ou vers la société.
Comment on se protège ?
Alors, chacun apporte sa propre réponse à ça. Moi, je vais te dire, la thérapie, ça va être mon biais de psychothérapeute, mais ça peut être autre chose. Tout le monde n'a pas besoin d'une thérapie, tout le monde n'a pas envie de faire une thérapie. Parfois, on a d'autres moyens de faire avec les angoisses existentielles, de cultiver cette autocompassion. Voilà, ça peut être des pratiques comme la méditation. Enfin, moi, je cite souvent ces pratiques-là, hein, comme aller marcher dans la nature, comme les relations. En fonction de ce qu'on a vécu avant, la façon dont on s'est structuré, on a déjà plus ou moins de ressources et plus ou moins de blessures. Mais si je peux te parler de la thérapie,
Bien sûr.
Crois que le travail personnel, c'est quelque chose qui peut beaucoup aider avec un thérapeute, avec l'aide d'un tiers, parce que justement, on peut apprendre à remettre en perspective nos conditionnements. On n'apprend pas ça à l'école. Hein.
Non.
On s'imagine que... Enfin, il y a un consensus pour dire que tout s'apprend. Hein. On apprend les maths, hein, on apprend la grammaire, l'histoire-géographie. Mais la géographie psychologique...
Les angoisses existentielles.
Mais ça, par contre, y a l'idée que ça doit être inné.
Oui.
Que, en fait, c'est les relations humaines, la façon d'être avec soi, la confiance en soi. Tout ça, c'est... Voilà, ce sont des choses qui couleraient de source.
Et c'est pas palpable aussi.
Et c'est pas palpable. Mais en réalité, on se retrouve dans des impasses parfois. La France, c'est un énorme consommateur d'anxiolytiques. Hein. Je crois qu'on doit être le troisième pays d'Europe ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pas glorieux dans le classement parce que on développe ce réflexe. J'ai une angoisse, je vais avaler un médicament ou je vais aller boire un verre d'alcool ou je vais prendre un risque ou... Et peut-être que j'ai à faire ce travail d'en réalité m'arrêter et regarder en quoi ça m'informe sur ce que je suis en train de vivre. C'est là, je crois que c'est un travail d'écoute personnelle. Et c'est très singulier. En gestalt thérapie, on n'apporte pas une réponse universelle. On n'est pas dans le mode d'emploi. Et donc chacun a à trouver sa réponse à lui. Mais pour ça, il faut la chercher, pour la trouver.
Et pour la chercher, il faut aussi être conscient que la psychothérapie peut aider. Et toi, tu as à cœur donc de démocratiser un petit peu ce sujet-là et de tendre la main à un maximum de personnes. Dans ton dernier roman que tu as publié, toujours chez Erol, Psy, Jeunes et Randonnée, les deux thèmes centraux de ce livre, ce sont les relations mère-fille et la psychothérapie, que tu racontes du point de vue de la thérapeute. Donc tu amènes tes lecteurs dans la peau d'une psychothérapeute en montrant en détail comment se déroule finalement une thérapie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment est-ce que toi tu pratiques la thérapie ?
C'est vrai que là j'avais vraiment envie de montrer comment se déroule une gestalt thérapie, en tout cas de proposer quelque chose, hein, parce que je pense qu'il y a autant de gestalt thérapeutes qu'il y a de personnes thérapeutes. Alors pour te parler de la manière dont je pratique, il y a une particularité à la gestalt thérapie qui est un angle de vue théorique spécial.
Oui.
C'est-à-dire que les autres courants de psychothérapie, la psychanalyse en premier lieu, ils vont vraiment se centrer sur l'individu. La personne vient me consulter, elle est séparée du monde. Je regarde cette personne avec son inconscient, ses émotions, ses pensées. Je suis thérapeute et j'ai un savoir sur le développement normal. Je vais chercher les symptômes, on va expliquer, interpréter et donc vraiment avoir une posture centrée sur l'autre. En gestalt thérapie, la théorie est différente. Alors je dis pas que c'est mieux, Mais moi, en tout cas, ça me parle beaucoup plus. Et il faut toujours chercher quelque chose qui correspond à notre sensibilité. En gestalt-thérapie, le premier paradigme, le premier postulat, c'est que l'individu n'est pas séparé du monde. On ne peut pas se séparer du monde. On est dans le monde en permanence. Et donc, l'individu, il est avec son environnement. On a ce qu'on appelle le champ organisme d'environnement. Et ça, on ne peut pas le couper. Et donc, du coup, ça a une conséquence, c'est qu'on est en permanence en contact. Là, tu vois, un auditeur qui nous écoute, il va être en contact avec son fauteuil, avec son casque sur ses oreilles, avec notre voix dans ses oreilles, avec son imaginaire, ses pensées, ses sensations. Et donc, tout ça, ce sont des contacts qui se produisent dans l'instant présent et qui, en s'accumulant, se sédimentant, vont créer ce qu'on peut appeler la psyché. Mais la vie psychologique, elle va se dérouler dans toutes ces expériences de contact. Et du coup, en gestalt-thérapie, tout ça, ça peut paraître très théorique, mais en réalité, ça a des applications très concrètes en séance. C'est-à-dire que le gestalt-thérapeute, il va pas partir d'un savoir sur l'autre, il va pas partir d'une théorie prédéfinie, même s'il peut les connaître, du développement normal, entre guillemets. Il va avoir une curiosité pour la singularité de la personne et la façon dont elle se forme dans le monde à chaque instant. Et prendre en compte cette notion de contact. Et donc, du coup, il n'y a pas de neutralité du thérapeute. Moi, en tant que thérapeute, je ne suis pas neutre. Quand je suis, tu vois, bon, tu n'es pas ma patiente, mais on est en train de parler. En face de toi, j'éprouve des choses. Je ne suis pas du tout neutre. Ce que je dis, c'est fonction de la situation. Et donc, ça, je vais l'utiliser en tant que thérapeute. C'est-à-dire que quand mon patient va parler, je vais éprouver des choses et je vais me dire que ça a un rapport avec ce qui est en train de se dire, ce qui est en train de se jouer, avec ce que lui a pu ressentir seul auparavant, seul et sans mots, et je vais le mettre à son service.
Et pour magnifier cette rencontre et toucher à cet instant présent, il y a une chose essentielle qui est l'écoute active. Est-ce que tu as appris à écouter ?
Oui, j'ai l'impression d'avoir appris à écouter. Je me suis beaucoup questionnée là-dessus quand j'ai commencé à faire médecine. Bah déjà, quand je me suis intéressée à la psychanalyse, ça a pour moi été un premier type d'écoute possible. Et au départ, c'était mon gold standard quand j'étais jeune étudiante en médecine. C'était un peu ce que dit Françoise Dolto dans son livre Autoportrait d'une psychanalyste. Elle raconte qu'elle se disait qu'elle aurait terminé sa psychanalyse quand, en séance avec ses patients, elle se dirait plus « Ah tiens, ça c'est comme moi
ah, ». Oui.
Qu'elle arriverait à se mettre totalement de côté. Avoir cette neutralité bienveillante qu'utilisent les psychanalystes pour travailler. Et c'est vrai qu'au départ, moi, ça a été vraiment une boussole de me mettre de côté et être vraiment complètement dévolue à l'écoute de l'autre personne. Et puis, petit à petit, ça s'est modifié voilà, avec ce que j'ai lu pour éduquer mes enfants. Thomas Gordon, par exemple, Parents efficaces, il a écrit un livre qui est très intéressant.
Tout plein de références.
Ouais,
bah je mettrai dans les notes de l'épisode.
Ok. Et lui parle de ça aussi, d'une écoute qui est un accueil. Parce qu'il donne un exemple au début, il fait faire un test. Votre enfant arrive et vous dit « je vais arrêter mes études ». Que répondez-vous ? Et moi, j'avais répondu des choses que je croyais être intelligente. Et puis en réalité, après, en lisant la suite, je me suis rendu compte que ce que j'avais répondu, il référençait ça parmi les obstacles à la communication. Et que lui, ce qu'il proposait de répondre, c'était tu vois la lettre M. Et finalement, de pouvoir laisser un espace à ce que la personne a à dire. Et là, ça a été une pierre supplémentaire. Et puis après, j'ai rencontré aussi la communication non violente, qui m'a beaucoup apporté. Et puis après, la gestalt-thérapie. Donc, j'ai l'impression que l'écoute, effectivement, ça a été quelque chose qui s'est transformé, qui s'est modelé. Ma façon d'écouter aujourd'hui, c'est pas du tout la même que celle que j'avais quand j'avais 20 ans. Et je pense que dans 10 ou 20 ans, ce sera pas la même non plus.
C'est pas évident d'apprendre à écouter. Comme tu le disais, c'est pas une chose qu'on nous apprend à l'école. Pourtant, c'est peut-être une des facultés les plus précieuses et les plus rares qu'on puisse avoir aujourd'hui.
C'est extrêmement précieux, je crois. Surtout quand on a l'élan de la rencontre. Enfin, j'ai même l'impression, de façon générale, on est des êtres relationnels. Donc, même dans une relation amoureuse, dans le couple, c'est hyper important de voir qu'on a, on va gagner pour faire grandir la relation et pouvoir nourrir la relation si on est dans une posture où il y a un grand pourcentage d'écoute avant d'aller amener aussi ce qu'on a à dire, de pouvoir être écouté aussi. Mais entendre, écouter, c'est hyper important. Parce qu'on est plutôt modelé par des conditionnements dans lesquels On va être pris émotionnellement et on va tout de suite avoir tendance à conseiller, à vouloir faire changer les choses, à vouloir modeler l'autre, à lui dire qu'on sent pour lui. Et en réalité, on ne sent pas pour lui. Mmh. On ne peut pas sentir pour l'autre. Et ce sera beaucoup plus nourrissant aussi pour la personne dans la vie, hein, pas juste en tant que thérapeute, de pouvoir être entendue, accueillie dans un espace d'ouverture.
Fanny, ça fait donc maintenant plusieurs années que tu es thérapeute et d'autant plus d'années que tu travailles sur toi personnellement. Tu nous parlais d'angoisse existentielle. J'imagine que même si tu as effectué un gros travail sur toi, tu en as encore aujourd'hui. Quelles sont ces angoisses qui peuvent parfois encore te traverser ?
Je crois que les angoisses, elles peuvent être à la fois globales et situationnelles. Peut-être que parfois, dans certaines situations, ça va faire résonner quelque chose de mon histoire, de mon vécu. Ça va réactiver un souvenir. Et là, il peut y avoir une zone d'angoisse. D'ailleurs, en thérapie, on peut fréquemment être sujet à ça parce que l'angoisse, c'est quelque chose qui est hyper contagieux. Il faut le savoir. Quand on est thérapeute, parfois, il faut être attentif au moment où l'angoisse surgit et voir si on est en train, par exemple, de se laisser aspirer pour pouvoir se détacher. Voilà. Pas forcément pour s'en protéger, mais en tout cas pour avoir le recul nécessaire pour rester thérapeute. Mmh. Et après, dans la vie en général, si j'ai les angoisses que j'ai, c'est plutôt le fait que être parent, ça nous donne la responsabilité d'élever un enfant et d'être présent pour lui à ses côtés. Donc si j'ai par exemple, une angoisse qui serait liée à la disparition, à la mort, elle est plutôt reliée à mes enfants, plus qu'à moi aujourd'hui. Voilà, ça serait plutôt de ce côté-là, où le lien d'amour qu'on a pour ses proches avec la peur qu'il leur arrive quelque chose. Ça, c'est des choses qu'on peut pas résoudre, hein. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Et la thérapie, c'est pour ça que la psychothérapie, elle peut pas tout résoudre, hein. Elle résoudra jamais le fait qu'on va tous mourir ou qu'on sait pas de quoi demain sera fait ou qu'on a peur pour nos proches. Mais l'idée, c'est quel soutien je vais construire, comment j'apprends à faire avec ça, à faire en sorte que ce soit vivable et supportable. Et je crois que, oui, moi, le travail que j'ai fait sur moi depuis toutes ces années, ça m'a aidé à élargir ma palette et à pouvoir voir que je suis à la fois vulnérable et à la fois solide, et pouvoir mettre ça au service de mes patients aussi.
Comment on fait pour élever une autre personne que soi ?
C'est une question qui est vaste. Hein. Là aussi, c'est singulier, je crois. Être parent, c'est quand même un grand bouleversement. C'est quelque chose en plus d'inattendu. Moi, quand je suis devenue parent, je me suis dit « Ah, on ne m'avait pas prévenu
!» Ça non plus, on ne l'a pas appris à l'école.
Ouais, ça non plus. Et donc, on a trouvé un chemin particulier à s'ajuster à son enfant, à se faire confiance, à s'écouter, à chercher, à tâtonner. C'est un apprentissage mutuel. En psychologie, il y a plusieurs théories en pédopsychiatrie sur la régulation mutuelle, qui est le fait que l'enfant, le parent, ils vont s'auto-réguler, ils vont apprendre l'un de l'autre à s'ajuster, tu vois, à avoir cet ajustement créateur. La parentalité, c'est une grande école de créativité. Et puis, ce qu'on appelle l'accordage affectif aussi, le fait de pouvoir s'accorder affectivement à son enfant pour pouvoir imaginer ce qu'il vit et puis rectifier si c'est pas ça. Et ça, on a besoin d'avoir une certaine dose de sécurité soi, de tranquillité, même si on peut pas tout guérir, on peut pas trop soigner, mais déjà, c'est pour ça que prendre soin de soi, éventuellement aller en thérapie si on a besoin de faire un travail, ça peut aider pour élever un enfant.
Mmh. Quelle est la chose la plus précieuse que tu aimerais leur transmettre à ces enfants ?
J'ai l'impression que ce serait quelque chose comme se faire confiance, savoir s'écouter, faire avec ses émotions et pas les gérer, parce qu'il y a beaucoup cette chose qui circule souvent quand on parle des émotions, il y a l'idée de les gérer, et les gérer ça veut dire les faire disparaître, les étouffer, alors qu'en réalité l'intelligence émotionnelle, c'est un langage très informatif sur ce qu'on est en train de vivre. Donc j'ai l'impression que mes enfants, j'essaye déjà de créer un environnement. de les élever. Mais j'ai cette image de élever, tu vois, comme un ascenseur, comme quelque chose qui fait monter. Mmh. C'est ça, élever un enfant. Mmh. C'est on met quelque chose sous son pied ou une marche pour qu'il puisse s'en aller. C'est les flèches de Khalil Gibran qui dit que les enfants, les parents, c'est un arc et les enfants, c'est des flèches qui vont être lancées dans le monde. Et donc, je serais plutôt avec ce questionnement de comment pouvoir être un arc de façon à ce qu'ils puissent ensuite aller vivre leur vie. Ils ne nous appartiennent pas, nos enfants.
C'est beau de le voir comme ça. Fanny, la liberté, c'est quoi pour toi ?
La liberté, j'ai l'impression que ce serait pouvoir se créer, aller dans les directions qui sont justes pour nous. Et pour ça, peut-être se libérer de certaines loyautés, de certaines croyances, pouvoir être là où on se sent bien. Et c'est pas toujours facile, parce qu'au départ, quand on a connu une enfance, une vie d'une jeunesse, au cours de laquelle on nous a beaucoup dit va à cet endroit, fais ça, rends tel devoir. Il n'y a pas forcément eu beaucoup de place pour s'écouter, pour prendre le temps de sentir, les éprouver, les émotions. Et on a souvent beaucoup été élevés aussi là-dedans, dans une certaine forme de violence éducative ordinaire, un peu larvée. Le mot violence, ça peut paraître fort, mais en réalité, il y a quand même quelque chose de violent là-dedans. Quand un enfant dit tiens, je suis pas bien, et le parent va lui dire mais si, t'es bien. Une négation qui fait qu'ensuite on a du mal à savoir ce qu'on ressent.
Et accepter quand on va pas bien.
Mm-hmm. Et donc du coup, la liberté, je crois que c'est pouvoir se réapproprier aussi une certaine boussole interne. Ça commence par ça.
Fanny, je vais te poser la question signature du podcast. Quel conseil tu aimerais partager à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui ?
J'aurais envie d'être un peu dans la même lignée que ce que j'ai dit à propos des enfants. Savoir s'écouter. Parfois, on dit que la démarche de psychothérapie ou s'écouter, justement, c'est quelque chose d'égoïste. Ce serait regarder son nombril. Et pas du tout. Moi, je crois pas du tout que ce soit ça. Et je crois vraiment que si on fait pas ce travail, déjà, de pouvoir être bien avec soi, s'écouter, se mettre au centre, se dire oui à soi alors que parfois ça signifie dire non à l'autre. On peut pas être bien avec les autres. On peut pas on peut pas donner sans cesse si on reçoit pas non plus. Et donc j'ai l'impression que cultiver cette intelligence relationnelle dont on a parlé, c'est extrêmement important. Se dire que ça s'apprend pas à l'école et pourtant on a besoin de travailler là-dessus, on a besoin de l'apprendre, on a besoin de trouver les clés qui seront utiles pour nous. Donc voilà, je crois que l'idée, c'est de ne pas se restreindre dans ses désirs ou ses envies de compréhension ou de travail sur soi.
Médial. Merci beaucoup, Fanny, pour tous ces partages.
Merci à toi, Victoria.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, n'hésite pas à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes et Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. Tu peux aussi me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvel Oeil. Sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout de faire des choses folles.